1952, les Jeux Olympiques ont lieu à Helsinki avec une grande première. L'Union soviétique y participe et inaugure ainsi une rivalité sportive entre l'Est et l'Ouest qui va marquer toute la guerre froide. Connaissez-vous le concept de finlandisation? Je vous résume. Se montrer conciliant avec un voisin plus puissant que soi pour éviter de le fâcher et de vous mettre le grappin dessus. En clair, pour préserver son indépendance, la Finlande veillera, durant la guerre froide, à respecter une stricte neutralité vis-à-vis de l'URSS. Pas question, évidemment, de rejoindre l'OTAN. Le contraste est frappant, puisque en 2023, la Finlande y a adhéré, conséquence directe de l'attaque de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Si je vous en parle, c'est pour évoquer le contexte dans lequel la Finlande accueille les Jeux Olympiques et qui marque un tournant. Pour la première fois, l'Union soviétique y participe. Et c'est d'autant plus marquant qu'en 1952, la tension est à son comble entre l'Est et l'Ouest en raison de la guerre de Corée. Pour éviter tout risque, les organisateurs vont carrément opter pour deux villages olympiques. Chacun son village, en fonction de son appartenance au bloc de l'Est ou au bloc de l'Ouest. À Helsinki, cet affrontement Est-Ouest sera pacifique. Et c'est franchement symbolique, la délégation américaine est composée de 333 sportifs et la soviétique en compte 333. Ça ne s'invente pas. Les États-Unis vont l'emporter avec 76 médailles, mais les soviétiques en récoltent tout de même 71, grâce notamment à leurs gymnastes. Le pari de Staline est réussi. Jusqu'ici, il avait boycotté les Jeux qu'il associait au capitalisme et à la bourgeoisie, et il avait tenté de les concurrencer en organisant des spartakiades, des compétitions pour la classe ouvrière. Écoutez ce qu'en dit l'historien Pascal Blanchard, un des commissaires de l'exposition sur l'histoire de l'olympisme qui vient de s'ouvrir à Paris. En affrontant l'Occident et singulièrement l'Amérique, l'Union soviétique entame à Helsinki une lutte de prestige qui va marquer la guerre froide.
L'Amérique et d'une certaine manière l'Union soviétique se sont battus dans l'espace. Les satellites, les missiles, la Lune et dans les stades. Et ça a duré très longtemps et ça comptait. Pourquoi l'Union soviétique revient en 52? Parce qu'elle aime le sport. Elle aime ses spartakiades, elle aurait pu continuer entre eux. Pas du tout. Elle revient pour rivaliser et démontrer qu'elle est supérieure à l'Amérique. Elle va y arriver. Elle va y arriver parce qu'en 56, l'URSS part comme première des nations. Et en Union soviétique, c'est un énorme buzzing.
Autrement dit, au jeu suivant, à Melbourne en 1956, les soviétiques vont détrôner les Américains au tableau des médailles. Mais ne brûlons pas les étapes et restons à Helsinki. La vedette de ces Jeux vient précisément du bloc de l'Est, il est tchécoslovaque. Nous en parlions déjà en évoquant les Jeux de Londres où notre compatriote Gaston Reif avait réussi à le battre aux 5000 mètres. Mais Helsinki, rien à faire. Lorsqu'il passe en tête de la course, les spectateurs ne s'y trompent pas. Écoutez. Le public scande son nom, Zatopek. Emil Zatopek, qui réussit un exploit inédit qui n'a jamais été égalé. Médaille d'or aux 5000 mètres, médaille d'or aux 10 000 mètres, médaille d'or au marathon. Une manière de courir très particulière, grimaçant durant toute la course, la tête tournée à gauche. Celui qu'on surnomme la locomotive, Tive, semble souffrir le martyr. Ce qui ne l'empêche pas de devenir un héros dans son pays, avec la bénédiction des autorités. En tout cas, jusqu'au printemps de Prague de 1968. Parce que Zatopek va s'engager pleinement dans ce socialisme à visage humain qui s'achève tragiquement par l'arrivée des chars soviétiques dans Prague. Zatopek est alors puni par le régime. Lui, qui était colonel, devient éboueur. C'est dès lors l'Ouest qui cherche à lui rendre honneur et qui parviendra à l'inviter aux Jeux de Munich. Bref, Emil Zatopek résume à lui seul la rivalité Est-Ouest et le rôle d'ambassadeur des vedettes sportives. Pour les Belges, le bilan d'Helsinki est correct. 4 médailles, une d'argent en aviron, et les 3 autres médailles, une d'argent et 2 d'or, en cyclisme. Mais je ne voudrais pas terminer l'évocation de ces Jeux de 1952 sans parler de nos voisins luxembourgeois. Au 1500 mètres, l'Allemand Luig fait figure de grand favori. Mais derrière lui, le luxembourgeois Vosy Bartel s'accroche. À la surprise générale, le voilà qui passe en tête dans la dernière ligne droite et il résiste au retour de l'Américain Macmillan pour donner au Grand-Duché de Luxembourg sa première et jusqu'à ce jour, sa seule médaille d'or. Sur le podium olympique, on aurait donc dû entendre ceci. l'équivalent de notre Brabanson pour le Grand-Duché. Vous le connaissez peut-être pas ? Eh bien, les organisateurs finlandais non plus. Pire, ils n'avaient tout simplement pas prévu la partition pour la fanfare. Pendant que les couleurs grand-ducales étaient hissées au mât en l'honneur de Josy Bertel, les musiciens ont donc improvisé un air qui n'avait rien à voir. Autrement dit, la seule fois où nos voisins luxembourgeois ont remporté un titre olympique, ils n'ont pas eu droit à leur hymne national. En pareille situation, on connaît d'autres de nos voisins qui auraient été davantage susceptibles.